C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est vrai, l'offre est devenue considérable. Des films accessibles à tous et dans un désordre vertigineux, mélangeant époque, genre, style, pays. Alors pour se frayer un chemin, des guides proposent leur itinéraire. Des cinéastes dévoilent les films qui ont allumé leur passion. C'est l'ADN de cette plateforme, la Cinéthèque, créée il y a tout juste 5 ans. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
C'est comme une cinémathèque mais en ligne, une plateforme dédiée au patrimoine, 1400 films accessibles. Et ils sont 93 cinéastes à avoir livré leur top liste des 50 films qui ont changé leur regard. Bonjour Michel Hazanavicius.
Bonjour Christine Masson.
Vous faites partie de ce club très ouvert, cinéaste, cinéphile, et ce matin nous avons demandé de choisir 8 films, je sais c'est cruel, 8 grandes claques de mise en scène. Nous avons pas mal voyagé avec vous entre Kubrick et Hitchcock pour ne citer que, sans oublier de fêter un autre anniversaire, celui de Jean-Luc Godard, 90 ans cette semaine, sauf qu'il peut la vie. Enfin, des conseils avisés de cinéma en livre, en DVD, en attendant la réouverture des salles. C'est parti.
Heard of Harry Lime? Best friend I ever had. So you're going to find me the real criminal. Sounds like one of your stories.
You're wrong about Harry. You're wrong about everything.
Le troisième homme de Carol Reed avec Joseph Cotten, Alida Valli, mais surtout Orson Welles, même 10 minutes à l'écran. C'est peut-être bien ce film, Michel Hazanavicius, qui vous a donné envie de réaliser.
Oui, je crois. Enfin, dans mon souvenir, en tout cas, c'est un des premiers films où j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui racontait l'histoire. C'est un des premiers films où j'ai vu que les images étaient aussi importantes que les acteurs, pratiquement. Enfin, dans tous les cas, dans ce film-là. Mmh. Et je crois que c'est là où j'ai eu envie de dire, j'ai envie d'être le gars qui décide de tout ça, quoi.
Scénario Graham Greene, musique Anton Karas, qui est drôle, c'est un joueur de sitar découvert par hasard par Reed dans une taverne viennoise. Palme d'or à Cannes, ça s'appelait le Grand Prix, mais en 1949. Un homme vient retrouver un autre à Vienne, après-guerre, ville divisée en 4 sections, apprend qu'il est mort dans un accident, mais continue à mener l'enquête. Alors, la technique est assez incroyable, hein, c'est un noir et blanc, et c'est assez vertigineux dans la mesure où la caméra bascule presque dans ce film.
Oui, parce que c'est un film sur, sur la désillusion. C'est-à-dire que c'est un film. Il y a eu toute une vague après-guerre de films de ruines, c'est-à-dire de films qui ont été filmés sur ces villes dévastées et donc en ruine, là, Berlin,
Rossellini en Italie,
évidemment, ouais. et Vienne, des films comme quelque part bien en sûr. Europe, ou Zinman ou Wilder qui sont venus en Europe pour faire ces films-là. Et celui-ci se passe à Vienne. Et donc c'est effectivement un film de ruine et on se rend compte que finalement les gentils, les méchants, il y a quelque chose qui est très trouble dans ces notions-là, alors qu'on sort de la guerre, donc on a besoin d'inventer un récit justement qui soit très clair sur qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et ben là il y a quelque chose qui nous fait basculer en fait, il y a un récit qui nous dit que les gentils, les Américains sont pas forcément tous gentils, puis les Allemands sont pas forcément tous méchants dans cette après-guerre. Les anciens bourreaux deviennent victimes, etc. Et c'est pas aussi, trouble, mais c'est un film comme ça, je vous dis, sur la, sur la désillusion où finalement l'amitié reste, comment dire, une valeur sûre. Et pour montrer cette désillusion, justement, il y a effectivement la caméra bascule, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de verticale, il n'y a plus d'horizontale, et on est dans quelque chose qui est tordu, déséquilibré, et qui met à mal un peu nos certitudes.
Et ce plan mythique d'apparition d'Orson Welles, caché dans une ruelle, et avec la lumière de la fenêtre qui allume
avec
son
visage. Voilà, avec un petit chat qui l'amène. Ça, c'est ouais. une performance aussi d'écriture, c'est-à-dire qu'on parle d'un personnage pendant 45 minutes et puis à la fin il arrive, il est magnifique, on dirait ouais. un dieu grec, il a ouais. un sourire qui... On sait tellement que c'est une ordure en plus, et il est tellement beau que ça crée un plan d'une dynamique incroyable. Il y a une lumière, un jeu sur l'ombre qui est un peu, je dirais, post-expressionniste, c'est-à-dire que c'est très très beau, on est à fond dans la fiction, et en même temps voilà, tout est hyper symbolique, ça se termine dans les souterrains, dans les égouts, oui. parce que ça, c'est une histoire, on est dans les égouts de l'humanité, et oui.
C'est marrant, je l'ai revu, quelle autre coïncidence de dire ça, mais je trouve que la forme submerge le fond en le revoyant maintenant, que c'est la forme qui est plus importante presque que l'histoire qui est un peu démodée.
Alors je suis pas du tout d'accord et donc je vais me barrer parce voilà. que non, c'est pas ça. Non, je trouve que, alors d'abord, moi j'aime bien cette définition du style, c'est quand quand le fond remonte à la surface et ouais. la forme, je trouve, raconte le fond. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui cette manière non manichéenne de raconter les héros et les histoires, elle est non pas galvaudée, mais on la connaît très très bien, on l'a fréquentée à l'époque, encore une fois au sortir de la guerre où on a besoin de récits très clairs. Je pense qu'il y a quelque chose qui était très juste et très clairvoyant dans ce film.
Vous en avez parlé, Laurent Rossellini, c'est le deuxième choix, Michel Hazanavicius, en noir et blanc aussi, 3 ans plus tôt, en 1946. Le film dont on dit qu'il a été l'acte de naissance du néoréalisme italien, c'est Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini. Il reconstitue donc, un an après la guerre, l'occupation. Ce qui est magnifique, c'est le destin d'un peuple, et surtout, il voulait prouver que les Italiens aussi avaient résisté.
Oui, alors là, on est dans la construction d'un récit, qui est beaucoup plus manichéen, je trouve, que... Oui, je trouve, parce qu'effectivement, c'est un film qui est très catholique, c'est-à-dire qu'il y a une notion de martyr, il y a une notion de sacrifice qui est très...
Du côté des résistants.
Ouais, bien sûr. Ouais. On sort de l'Italie fasciste. Ce qui est assez étonnant, c'est que Rossellini lui-même a fait des films pendant l'ère fasciste, et donc il construit...
Pas les meilleurs. Hein.
Non, pas les meilleurs. Bon, c'était pas la meilleure période de l'Italie non plus,
ça m'a pas échappé.
Voilà, c'est sa trilogie fasciste. Bon, voilà. Oui. Et donc là, il construit un récit justement très en noir et blanc et tout. Après, dans la forme, il invente vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'il descend dans la rue, il filme des gens, il filme des vrais gens, il filme des cages d'escalier, il filme des appartements.
Il mélange le réel et la fiction, mais de façon hyper harmonieuse.
Oui, et puis avec des acteurs, c'était Anna Magnani, peut-être une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma, et elle a cette force, cette beauté populaire, je veux dire, elle a un truc qui elle est le néo-réalisme. Enfin,
c'est elle et elle qu'on va entendre, Pina, qui court après son fiancé, emmené par les Allemands. Ça, c'est l'un des plans les plus célèbres du cinéma, Michel Hazanavicius.
Ouais. Ça, c'est magnifique. Oui, absolument. Non, j'étais en train de repenser à Anna Magnani.
Ah, ouais, on l'écoute. Ouais.
Oui, oui, non, mais c'est un plan qui est absolument terrifiant, dramatique, comment dire, totalement inattendu, qui vous prend, voilà. Mais c'est vrai ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un mélange de c'est une forme documentaire, quasi documentaire, pour un film qui est très fictionnalisé, très romanesque. Pour l'anecdote, coécrit par Fellini, qui était l'assistant de Rossellini. Oui. Ce qui est étonnant, parce que c'est vraiment...
C'est deux univers très très opposés.
Et il y a déjà dedans, je trouve, quand même ce qui est en germe de la comédie italienne. Ouais. C'est-à-dire que il y a quand même de l'ironie, il y a quand même des ambiguïtés de personnages qui sont...
Merci, ça nous amène au troisième choix, justement.
Ah bah alors, formidable.
Puisque c'est un autre chef-d'œuvre italien, signé du maître de la comédie à l'italienne, Dino Risi, qui est beaucoup plus connu, lui, pour Le Fanfaron, Les Monstres, Parfum de Femme. Il s'agit de ce film qui est un chef-d'œuvre en fait, qui s'appelle Une vie difficile, avec l'immense Alberto Sordi. En fait, c'est le destin d'un homme depuis la Seconde Guerre jusqu'aux années 60. C'est Alberto Sordi. Donc, en fait, ce qui est magnifique dans ce film, c'est résumer un pays à travers le destin d'un homme.
Oui, ce qui est vraiment, alors je crois que c'était le but inavoué, inconscient, je ne sais pas, de la comédie italienne, c'était raconter l'Italie, et raconter l'histoire de l'Italie, c'est effectivement, ça c'est des films, je sais pas, films fleuves, je sais pas, c'est pas très long, mais je veux dire, c'est un film qui dont l'histoire se passe sur 20 ans.
Ce qui est très, il dure 2 heures.
Ouais, mais c'est très très dur à faire, parce qu'en fait, si vous faites un film d'action sur qui se passe sur une semaine, bon, les actions s'enchaînent, elles ont une relation de cause à effet. Là, vous travaillez sur des choses beaucoup plus essentielles, parce que les relations de cause à effet, c'est pas sur 20 ans. C'est des choix de vie, c'est des choix d'hommes.
Et surtout cet homme, qui est un journaliste de gauche, un type radical et intègre.
Oui, il est intègre, et en fait, il fait des choix, si vous voulez. En fait, il est intègre, et l'époque fait des choix, fait des mauvais choix, et elle le met sur le carreau. Et en fait, il se retrouve en échec. Oui. Pas par sa faute, mais par la faute de son époque.
Un loser magnifique.
Je dirais pas que c'est un loser.
C'est pas un loser.
La résolution est magnifique. Alors, vous m'avez demandé des trucs sur la mise en scène. Moi, en fait, je sais pas ce que c'est que la mise en scène. Mais là, je pense que engager Alberto Sordi, c'est pratiquement engager un co-auteur, et c'est pratiquement un choix de mise en scène, je veux dire, qui éclabousse le film. Alberto Sordi, ça fait 2 fois que je le dis, pardon, mais je pense que Sordi est le meilleur acteur du monde. Peut-être avec Peter Sellers, je ne sais pas, mais en tous les cas, il est incroyable. Il est incroyable. Et il y a une humanité qui se dégage. On parle du destin de l'Italie, etc., mais c'est un film d'une humanité hallucinante. Le travail de mise en scène pure de la caméra, c'est un travail sobre. On voit le corps des acteurs, on voit, souvent les acteurs sont ensemble dans le champ, donc il y a beaucoup de, comment dire, de relations humaines. Léa Massari est magnifique.
C'est celle qui le sauve au début et qui va devenir sa femme et qui préfère l'argent à cette pauvre condition, qui va lui faire choisir entre gagner de l'argent et se compromettre ou rester un...
Oui, alors là, il y a un choix qui à un moment donné paraît un peu misogyne ou un petit peu daté, c'est-à-dire que pour la femme qui voudrait, comment dire, qui voudrait avoir un confort un peu matériel, il va se trahir, etc. Mais la fin du film, sauf ça, elle est tellement moderne, elle est tellement belle, elle est tellement... comment dire... La fin, c'est vraiment un beau frisson, à la fois drôle et c'est de la comédie italienne, mais c'est pas un film si drôle que ça.
Non,
c'est
non,
vous avez une espèce de sourire intérieur constant, vous êtes ébloui, mais c'est pas, vous allez pas vous taper sur les cuisses non plus.
Hein. On va vous faire écouter, parce que vous l'aimez, Alberto Sordi, qui parlait français. On va l'écouter.
Dans votre enfance, Alberto Sordi, est-ce que vous étiez riche ou est-ce que vous étiez pauvre?
Pauvre, monsieur.
Très pauvre?
Oui, je suis né pauvre. Je suis resté pauvre jusqu'à présent. C'est depuis quelques années que j'ai commencé à avoir un peu d'argent et maintenant je me peux considérer un homme riche.
Et votre caractère, Sordi, il y a des lieux communs qui disent que les comiques sont toujours tristes, mais quelquefois les lieux communs, ben mon Dieu, ça correspond à la réalité. Alors est-ce que vous êtes un comique gay ou un comique triste?
Dans la vie.
La vie,
ouais,
bien sûr.
Je suis gay, oui. Comme nature, je suis gay. Oui, on a quelques moments de tristesse, mais ça, c'était une chose de cœur, sentimentale. Vous savez, je suis encore célibataire, alors quelquefois je suis triste parce que je n'ai pas encore trouvé la fin de mon cœur.
Ah, voilà, Alberto Sordi parlant français, interviewé par François Chalet. La suite, eh bien, c'est la guerre, toujours. La guerre du Vietnam à travers deux films, mais en fait, deux films sur la guerre du Vietnam, mais n'évoquant pas la guerre vraiment précisément. On va commencer avec votre premier choix, c'est Apocalypse Now. Tiens, on va écouter Coppola parler de son film.
My film is not a movie.
Mon film n'est pas un film.
My film is not about Vietnam.
C'est pas au sujet du Vietnam.
It is Vietnam.
C'est le Vietnam.
It's what it was really like. It was crazy.
C'était comment était Vietnam réellement, vraiment, c'était...
And the way we made it was very much like the way the Americans were in Vietnam. We were in the jungle.
On était au jungle.
There were too many of us.
On était de trop.
We had access to too many, too much money.
On avait accès à trop d'argent.
Too much equipment.
Trop d'équipement.
And little by little we went insane.
Et peu à peu, on est devenu fou.
On a choisi cet extrait, cette déclaration de Coppola, parce que vous m'aviez dit, pour avoir cette émission, que dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que la guerre est des deux côtés.
Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est très compliqué de représenter la guerre. Ouais. De son côté spectaculaire et attirant est très dangereux d'un point de vue éditorial, etc. Et là, le propos, je crois, est de raconter... Il va vraiment vers l'intérieur de la guerre. D'ailleurs, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Ouais. C'est un film qui va vers l'intérieur. C'est une espèce de poursuite, de quête comme ça intérieure vers le centre de la folie, en fait. Et toute la forme est tellement incroyable. On ne fera plus jamais de film comme ça. Plus jamais. Et c'est ce que vous voyez est fou. C'est-à-dire qu'on brûle des forêts, il y a des hélicoptères de partout. C'est-à-dire que vous voyez un type devenir fou devant vos yeux. Et en fait, la forme même du film incarne, encore plus que l'histoire racontée, etc., incarne le sujet profondément. Je crois que c'est à peu près ce qu'il vient de dire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous saute aux yeux. C'est un festival d'images complètement dingues, de mecs tarés, de mecs qui sont sous daube, qui racontent n'importe quoi. Il y a une folie incarnée dans ce film. Démesurée. En fait, tout est démesuré dans ce film. Et oui, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire... c'est au-delà de ce qu'un réalisateur peut faire comme choix. Voilà.
Est-ce qu'on écoute là? Parce qu'en fait, quand on pense à ce film, on pense à Brando, à la Valkyrie, au Dorse, au Surf, au Napalm, au Playmate. On a plein d'images très fortes, très prégnantes.
Oui, on a du Duval, Charlie Don't Surf. Non, mais bien sûr. C'est que des passages de folie, en fait. Ce sont que des passages de folie avec un mec qui essaye de naviguer autour de ça. Et je vous dis, les moyens mis en œuvre...
Le plus fou étant Coppola.
Oui. Le plus fou étant Coppola qui se sent à travers chaque plan, qui se sent à travers chaque image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui va brûler une forêt? Il n'y a pas d'effets spéciaux dans ce film. Il n'y a pas d'effets spéciaux, ça fait une différence folle. Mais ce qu'il a fallu... On se dit, il y a un cerveau qui a mis en œuvre tout ça, qui a dit, on va napalmer cette partie de la forêt... Personne lui a dit non. Non, mais je veux dire, c'est... Donc il y a une espèce de truc, je vous dis, qui est hors de toute raison, quoi, qui est dans la manière de penser ce film.
Oui, quand je dis la guerre de côté, c'est la guerre pour Coppola pour le faire, parce qu'il a eu les pires embûches du monde sur ce tournage. D'ailleurs, il y a d'ailleurs un doc génial qui s'appelle Au cœur des ténèbres, qui était vraiment au cœur du processus.
Mais je crois que même si vous ne connaissez pas, j'allais dire entre guillemets, l'anecdote de fabrication, même si vous ne connaissez pas le making-of, c'est absolument perceptible dans le film lui-même. C'est-à-dire que le film transpire de cette démesure dingue, quoi. Donc de cette folie, quoi.
L'amitié jusqu'au bout de l'enfer de la guerre, c'est le deuxième film, donc c'est Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, 1979. Ce qui est beau, donc, c'est ce groupe d'hommes, d'amis qui va être bousillé par la guerre.
Oui, alors là, c'est exactement le film complémentaire, je dirais, d'Apocalypse Now. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui va vers l'intérieur, c'est un film qui est autour. Quand on raconte des histoires, très souvent, l'action elle-même n'est pas très importante, pas très intéressante. Ce qui est important, c'est la préparation de l'action et la résultante de l'action. Ce que l'action a provoqué. Et le film est absolument chapitré comme ça. C'est-à-dire que vous avez... une très longue scène qui doit... Enfin, le début doit... C'est pratiquement une heure, je pense.
Le mariage ?
C'est un mariage chez des gens en Pennsylvanie, etc. Le film commence dans une chauderie, une chaudière. Ouais. Enfin, c'est une vision de l'enfer. Ouais, ouais. C'est vraiment l'enfer, quoi. C'est les flammes, des créatures qui agitent les flammes, etc. Juste après, il y a un mariage avec une mariée en blanc qui s'appelle Angela. Donc la notion, si vous voulez, de l'enfer et du paradis est assez très clairement, très clairement posée comme ça. Il y a toute une parabole d'ailleurs très catholique sur les anges dans le film. Ce qui est, on s'attache à ces personnages qui ont des histoires d'amour, qui ont des histoires d'amitié, qui sont pris dans toutes les communautés, dans toute leur communauté qui est très américaine. C'est-à-dire, c'est à la fois des ouvriers, ils sont dans une église, c'est des copains, ils ont leur bar, ils ont leur famille, etc.
Justement, le bar, on va l'écouter parce qu'on va continuer à parler parce que cette scène qu'on a choisie, qui est magnifique, où ils jouent au billard.
Bien sûr.
Et ils écoutent cette chanson qu'ils chantent en même temps.
Avec un Christopher Walken qui bouge comme...
Qui est magnifique!
Il est magnifique. Il est magnifique. Et donc, vous avez au milieu, Une scène finalement pas très longue pour un film de guerre qui incarne la guerre, c'est-à-dire c'est même pas en termes de film de guerre, ça n'a rien à voir avec Apocalypse, rien à voir. En revanche, là encore, c'est une parabole, c'est-à-dire c'est des gens, c'est la roulette russe. La guerre, c'est la roulette russe, et c'est incarné donc par une scène de roulette russe.
Alors que là, on écoute un moment de paix, là.
Là, on est avant. Là, on est avant.
Pour bien construire, nous décrire cette amitié qui soude ces quatre hommes.
Exactement. Et c'est de la chair humaine. On fabrique, Chimino fabrique de la chair humaine, fabrique des êtres humains, et il les envoie à la guerre. Je vous dis, c'est une scène comme ça de roulette russe, complètement dingue, absurde, avec des mecs. Voilà, personne ne contrôle rien. Personne n'est maître de son destin, à part peut-être un petit peu le personnage de Robert De Niro. Et après, vous avez l'après, c'est-à-dire vous avez le retour au pays, ce que la guerre a fait sur ces gens qui sont incapables de se parler, incapables d'aimer. Quand ils reviennent, il y a un comité d'accueil, on a fait une banderole, mais il s'arrête même pas, il est incapable d'arrêter. Ils ne peuvent plus vivre en société. La note, si vous voulez, positive, c'est que le titre original, c'est Le Chasseur de Cerfs, ouais. The Deer Hunter.
Il détestait le titre français, Chimino.
Ouais, mais moi, en fait, je trouve pas mal. Mais je sais qu'il a très mauvaise presse, ce titre.
Lui-même, il le trouvait beaucoup trop violent par rapport à ce qu'il racontait.
Peut-être, mais en tous les cas, donc, De Niro, qui est le personnage qui tuait les cerfs d'un seul coup de fusil au début, devient incapable de tirer et il rejette les armes à feu à la fin.
Une autre forme de folie, celle générée par l'impuissance créatrice, c'est la confrontation d'un être avec ses pulsions, et c'est l'énorme Shining de Stanley Kubrick, 1980. Avant d'en parler, tiens, on va écouter l'extrait en français, parce que, grande découverte, effectivement, Jack Nicholson est doublé par Jean-Louis Trintignant.
Je suis sûr que tu as des idées tout à fait précises quant à ce que nous devons faire de Danny, et j'aimerais que tu me les fasses connaître.
je crois qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur.
Tu crois qu'on devrait le conduire chez un docteur?
Oui.
Et quand crois-tu qu'on devrait le conduire chez un docteur?
Aussitôt que possible.
Aussitôt que possible.
Jacques, je t'en prie.
C'est génial parce qu'en fait on voit les yeux de Nicholson en écoutant, on voit la
oui,
ouais,
oui,
c'est marrant,
oui,
hein.
Colle,
ouais, c'est marrant.
Parce qu'il a une voix proche et en même temps il reste Trintignant.
Il te fait du souci pour lui.
Oui.
Il te fait-tu du souci pour moi?
C'est dingue. Shining, donc Stanley Kubrick, vous avez choisi cette immense réalisation pour son côté flottant, ses travelling incroyables aussi, en plus de tout le reste, bien sûr.
Oui, non, mais alors d'abord, je suis ravi d'avoir entendu Trintignant, je suis amoureux de Jean-Louis Trintignant, ouais. et donc voilà, que j'ai eu la chance de le rencontrer il y a pas très longtemps. Bon, fin de l'aparté. Oui, j'ai choisi, disons, pour la place qu'on fait, c'est pas vraiment des travelling, c'est des plans à la Steadicam.
À la Steadicam, pardon. Oui.
Et pour les gens qui savent pas, la Steadicam, c'est un outil de machinerie de caméra qui permet à l'opérateur de bouger dans tous les sens.
Mais on est en 80, donc il est l'un des premiers
C'est un des premiers à l'utiliser comme et la caméra amortit tous les chocs. Donc ça donne des plans un petit peu effectivement flottants, mais une caméra très mobile, etc. Il est le premier à l'utiliser de manière aussi systématique. Et en fait, donc c'est un film qui raconte, là encore, un personnage qui devient fou dans un hôtel qui est un peu habité, hanté, on sait pas bien, etc. Et le filmage de Kubrick, en fait, donne une espèce de présence en dehors des personnages, donc une présence qui serait dans l'hôtel, qui finalement donne tout le sens au film. C'est-à-dire que si vous racontez le même film, filmé d'une manière différente, vous avez, je pense, à peu près un nanar. Vous avez une performance géniale de Nicholson, qui est un acteur, là, qui est dans la lignée des James Cagney, des Mitchum de La Nuit du Chasseur, etc. C'est-à-dire c'est grand guignolesque, etc. Mais le film arrive à ne pas être ridicule. Le film arrive alors qu'on pourrait vraiment être dans un truc, honnêtement. Enfin, et ce filmage-là donne un truc complètement terrifiant parce qu'il y a une folie
d'ambiance, quoi.
Les couloirs deviennent comme les méandres d'un cerveau. On sait plus bien. Il y a des aberrations il y a des vraies aberrations de scénario. Par exemple, il y a un moment où Nicholson est coincé dans un garde-manger duquel il ne peut pas sortir. Deux scènes après, il est dehors, personne ne l'a libéré, Eh bien, je pense que ce filmage-là, cette présence, c'est la présence racontée par ce filmage, c'est cette présence qui a libéré Nicholson, j'en suis persuadé.
Ah ouais.
Mais oui, forcément. Mais qui d'autre? Ils sont quoi, trois? Et en même
c'est
temps.
C'est mathématique.
Bah, évidemment.
Who else?
Et en même temps, ce qui est très beau, c'est qu'il y a des moments, il y a un moment, le Shining, c'est une espèce de faculté qu'on un ou deux personnages, le petit Danny et le personnage du garde de cet hôtel, à voir comme ça les morts, les choses qui sont passées, etc. Et il y a un moment donné, il y a une scène entre les deux, et là, il y a une espèce de simplicité, de confiance dans le cinéma, je trouve, de Kubrick, c'est un champ contre champ extrêmement classique sur une scène très très longue, à l'inverse de toute la démonstration de virtuosité qu'il fait autour du film, et un truc extrêmement fort se passe avec un filmage on ne peut plus simple, qui est donc un champ contre champ, à savoir un plan sur un acteur alterné avec les plans de l'autre acteur. Juste Kubrick, c'est mastermind, enfin c'est le the brain, quoi. Tout est...
C'est intimidant pour un cinéaste.
C'est vaut mieux pas y penser, en fait. Ouais. Non, c'est-à-dire d'abord faut voir ses films comme un spectateur, et puis vaut mieux pas y penser. Non, mais sinon vous rentrez chez vous, puis vous faites.
Qu'est-ce qu'on peut faire après ça?
Bon, c'est pas le seul, mais oui. Mais de toute façon, non. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une compétition. Vous savez, c'est pas. C'est pas parce que Kubrick a fait des films qu'on n'a pas le droit de faire des films.
Très bien, très bon.
Non, mais faut se détendre après.
Là encore, à la folie, ou plutôt un amour fou qui va conduire un homme à se couper les bras pour la femme qu'il aime. C'est L'Inconnu de Todd Browning avec le grand Lon Chaney. On aurait pu parler de Freaks, mais je crois que vous préférez celui-là. C'est un film muet de 1927 sur lequel a été ajoutée de la musique plus tard. Mais histoire extrême et acteur hors norme.
Lon Chaney et John Crawford.
Et John Crawford.
Vous
oui,
oubliez
le
la
début,
jeune,
John... bien sûr. Sûr.
Quasiment John... méconnaissable par rapport
à ce. Il est amoureux
de
cette femme sur laquelle il tire des couteaux. Et
avec ses pieds.
Avec ses pieds, parce que...
S'il vous plaît. Non, mais je veux dire, c'est je dirais pas que c'est du Tarantino, mais c'est la création d'images que vous n'oublierez jamais. C'est-à-dire qu'il y a dans ce film des images que vous n'oublierez jamais. Ça se passe dans un cirque ambulant, sans doute en Italie, en Espagne peut-être. Enfin, c'est une ambiance comme ça, gypsy, roulotte, machin, etc. C'est l'histoire. Là encore, la mise en scène, je crois que c'est une espèce de la mise en scène de ce film. D'abord, les bons films muets, en termes de mise en scène, c'est une merveille. C'est la version la plus pure de raconter des histoires en images. Mais là, il y a des choix complètement incroyables d'histoire. C'est l'histoire d'un type qui est recherché par la police. Pour cacher son empreinte digitale, parce qu'on le cherche, il fait semblant d'être manchot. Ouais. Et donc, faisant semblant, il a un numéro il est lanceur de couteaux avec les pieds. Il vit avec les mains attachées dans le dos et il tombe amoureux d'une femme qui, elle, a la phobie des bras et donc, elle a la phobie des mains et des bras des hommes et donc elle tombe amoureuse de lui. Et pour aller au bout de cet amour, il va aller se faire couper les bras pour de vrai. Pendant qu'elle, elle tombe amoureuse de Hercule.
Oui. Et donc, Hercule qui comprend comment la séduire, comment commencer à la toucher. C'est un film d'une modernité pour ça. C'est comme l'histoire d'une femme qui ne veut pas être harcelée et qui trouve l'homme, enfin, qui sait la prendre. Quoi.
Exactement. Et c'est un film, donc, et vous avez très sexué, enfin, très sur des passions, passions exacerbées. Enfin, je veux dire, le film est complètement dingue. Et je vous dis, les images, c'est un festival. Il finit quand même écartelé par deux chevaux c'est un film incroyable que vraiment c'est un film assez court.
Très court.
47 minutes.
Oui. On est toujours un petit peu impressionné par l'idée d'aller regarder des films muets, mais les films américains notamment, vous savez, aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelait le Code Hays, qui a tout ramené un petit peu une espèce de côté puritain au cinéma américain à partir de début des années 30, je crois.
Oui, c'est ça.
Les films muets échappent à ça et vous avez des films extrêmement étonnant. Vous avez le premier Scarface, par exemple, qui s'appelle Underworld de Von Sternberg. Vous avez des films complètement fous. Celui-là, vraiment, je trouve que c'est un très très bon. Il est vraiment très très rock, quoi. Vous pouvez y aller.
L'Inconnu de Todd Browning. On va terminer par un film parfait, à vous dire.
Ouais.
C'est La Mort aux Trousses d'Alfred Hitchcock.
Ouais.
Pourquoi parfait? Parfait à tout point de vue.
Oui. c'est un film. C'est un film où on se dit tiens, je vais regarder deux minutes et vous regardez tout le film. C'est un film parfait parce qu'il est d'une beauté. Il y a vraiment toute l'esthétique de cette
graphique, géométrique.
Complètement. Des fois, vous êtes dans du Edward Hopper. Enfin, c'est à la fois de la peinture en même temps, c'est totalement du cinéma. Le film est ultra joyeux et en même temps, c'est un thriller. il est, l'écriture cinématographique est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de, je veux dire, c'est le meilleur filmeur, monteur, et tout est, non mais, alors, en plus c'est Bernard Herrmann, le musicien qui est à son top. C'est Cary Grant, l'acteur qui est d'une beauté, d'une élégance, les costumes, la lumière, si vous voulez, c'est un, ouais, c'est vraiment parfait, quoi. Il y a vraiment, mais c'est pas parfait avec le côté chiant, ennuyeux et
rebutant. C'est haletant au contraire.
Ouais. Mais vous êtes à fond avec lui et pareil, hyper sexué, c'est-à-dire tout est à double.
Ah voilà. Oui, justement, on a choisi la scène hyper sexuée dans le train. Non, mais il y a
le dernier plan du film.
Bien sûr.
Le dernier plan du film, c'est le meilleur gag de l'histoire du cinéma. Ils sont dans, je peux le raconter. Non, ouais,
oui, allez.
On peut pas dire qu'on va spoiler la mort aux trousses.
Non.
Ils rentrent, ils sont dans le train, il fait monter la fille sur sa couchette, et il y a un plan extérieur avec un train qui rentre dans un tunnel,
comprennent qui pourra.
Oui, non, mais voilà, toute la joie.
Bon, on va passer une scène un peu plus subtile que celle-là, c'est
à peine.
La scène du train, où il faut lire, entre les lignes, on la passe en français, bien sûr.
Je sais, je dois vous rappeler quelqu'un.
Ah oui.
Et vous pensez que vous m'avez déjà vu. Voilà, c'est étrange, mais ça m'arrive souvent. Ça doit sûrement venir de mon visage.
C'est Michel Roux.
C'est lui, son visage. Oui,
Michel Roux.
Absolument.
Vous le pensez?
Si je vous l'ai dit, c'est que je le pensais.
Ah, vous êtes de cette race de femmes.
Quelle femme?
Honnête.
C'est beaucoup dire.
Mais tant mieux, les honnêtes femmes me flanquent la frousse.
Pourquoi?
J'en sais rien, avec elle, j'ai vraiment l'impression d'être désavantagé.
Parce que vous n'êtes pas honnête avec elle?
Oui, ça doit être ça.
C'est comme lorsqu'on brûle successivement cette feu rouge.
Voilà ce que je veux dire. Au moment où je fais la connaissance d'une femme qui me plaît, je suis obligé de faire semblant de ne pas la désirer.
Mais pourquoi une telle hypocrisie?
Elle pourrait me reprocher de brûler les étapes.
Ou au contraire s'en féliciter.
Alors dans la version originale, je trouve que le doublage de Michel Roux est pas mal. Elle est beaucoup moins ingénue. Hein. Oui. Elle est beaucoup plus à double sens dans la version originale. Ouais. Mais j'aime beaucoup ses voix, ses voix de doublage.
Serait-ce une proposition?
Je ne parle jamais d'amour, l'estomac vide.
Vous avez déjà dîné?
Pas vous, n'est-ce pas?
Pour terminer, Michel Lavissus, je vais faire un exercice un peu périlleux.
Allons-y.
À travers tous les films que vous avez choisis, j'ai sorti des thèmes. C'est très drôle. Hein. la guerre, la folie, l'amour trahi, mais dans tous ces films. La guerre est absolument partout dans Rome ville ouverte. Le troisième homme, c'est le début de la guerre froide, Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now, la mort aux trousses, une vie difficile. La folie, elle est dans Shining, dans l'inconnu. Même la paranoïa du Hitchcock, Apocalypse Now, bien sûr, et Voyage au bout de l'enfer. Et l'amour, également, dans la mort aux trousses, il sait pas s'il aime la femme qu'il faut, d'ailleurs. Dans l'inconnu, c'est une sorte d'amour extrême. Rome, ville ouverte, pareil. Voyage au bout de l'enfer, une vie difficile. En fait, dis-moi ce que tu aimes, je te dirai qui tu es. C'est drôle, ces thèmes qui ressortent, quand même.
Ben,
c'est
des thèmes
extrêmes, hein.
En fait, je pense que vous venez de donner à peu près la définition de la mise en scène. En fait, c'est la guerre, la folie et l'amour. Ouais. Non, en fait, j'avais pas du tout réfléchi
c'est
comme ça.
C'est la même chose, de toute façon.
Hein?
C'est la même chose.
Ça tourne à peu près autour.
On est d'accord.
Mais ouais. J'avais pas du tout réfléchi comme ça, mais effectivement, il y a ça. Peut-être que c'est parce que après, je vous dis, moi, les choix
inconscients.
Complètement inconscient, donc c'est difficile à expliquer. Mais non, mais choisir 8 films, pour moi, c'est en écarter. C'est une énorme soustraction que vous m'avez demandé. J'en ai juste écarté 1298, quoi. Donc c'est compliqué, mais effectivement, mais peut-être que ouais, les grands films sont faits sur ces thèmes.
Vous voulez pas revenir à vous, hein?
À moi?
Ben oui, c'est vos choix. Donc
ben moi, je suis sur l'amour, je veux bien en parler, mais j'ai ni fait la guerre, ni je suis dingue. Mais pas en Dennis, avec plaisir.
Non, c'est... ce sont des obsessions.
De spectateurs, je dirais. Mais ceci dit, bon, je... Non, mais vous avez raison, j'ai pas tellement envie de parler de moi.
Voilà, exactement.
Mais pas plutôt.
Vous restez avec nous pour les. Donc, on fêtait les 5 ans.
Tous ces films sont bien visibles sûr. Sur le site de la Cinéthèque, formidable plateforme, on le redit. Voilà.
On retrouve Grégory Porter et après, on fête un bon anniversaire à JLG.
Everything you touch is gold. That is why my soul
is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. Stop mining. I don't have to dig to see my treasure standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on?
L'avenir lui appartenait. Il était respecté dans le monde entier. Adoré aussi bien par Jean Renoir que par les Beatles, par Fritz Lang ou les Rolling Stones, et unanimement considéré comme le plus doué de sa génération. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Son seul nom évoquait une certaine idée du cinéma, inclassable, sauvage, fascinant, drôle, imprévisible, déstabilisant, politique, charmant, impertinent, jeune, libre. Et je l'aimais. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais, d'être impressionnée par lui. Cet homme, qui avait révolutionné l'histoire du cinéma il y avait moins de 10 ans, avait aussi bouleversé ma vie. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même.
Le redoutable Michel Hazanavicius, votre hommage à Godard, l'homme plus que le cinéaste. Donc il est né le 3 décembre 1930. Il est né à Paris. Il a eu 90 ans cette semaine. Vous l'avez jamais rencontré ?
Non, jamais.
Vous l'avez dit que vous faisiez ce film ?
Je lui ai fait savoir et je lui ai envoyé le scénario. Voilà. J'ai essayé de tout faire. J'ai écrit une lettre.
Il n'a pas répondu, bien sûr.
Bien sûr.
Quel est votre film préféré de Godard ?
Ah, c'est difficile. Je dirais que la décennie préférée, c'est la première. Ouais. Je suis un peu classique. Et après, il y a des fulgurances un peu tout le temps, partout. C'est compliqué. Le Mépris est quand même un film, je trouve, absolument, voilà, un film très prenant. À bout de souffle, c'est quand même, voilà, la base. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas très podium, mais je dirais la première décennie, moi, est la plus. Oui, parce qu'il y a du charme. Ouais.
Non, mais ce qui est beau dans votre version, dans votre Redoutable, c'est que c'est votre version à vous du Mépris, en gros.
Oui, il y a un peu un parallèle, en effet.
Ouais. C'est très joli.
Le mec est tranquille. Oui, c'est ça.
Ouais. Très simplement.
Oui, c'est un film
parfait.
Ouais, voilà. Comme le Mépris, pareil.
Bon anniversaire, Jean-Luc.
Bon anniversaire.
Oui, bon anniversaire, Jean-Luc.
Oui, voilà. Des informations maintenant, Laurent, et surtout des conseils. On va commencer par un grand chef-op.
Oui, un grand chef-op, Pierre L'Homme. C'est le beau livre de Luc Béraud, que lui consacre Luc Béraud, qui s'appelle « Les Lumières de l'Homme ». Bien entendu, c'est publié à l'Institut Lumière Actes Sud, édition conjointe. Donc, après Jean Eustache, Luc Béraud raconte Pierre L'Homme, et se raconte aussi. D'ailleurs, Pierre L'Homme, on le redit pour mémoire, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé comme chef-op avec Bresson, Melville, Cavalier, Marker, Claude Miller, Jacques Doyon, Rapneau, Duras, enfin voilà. Donc, il a vraiment un sacré curriculum vitae, et c'est le fruit de conversation qu'a eu Luc Béraud avec cet homme. C'est bourré d'anecdotes, évidemment, c'est bourré aussi de réflexions tout simplement sur l'image. C'est quelqu'un quand même qui est arrivé à peu près à bluffer Bresson, je pense qu'ils sont pas très nombreux au monde, et il disait: je ne suis pas entré dans le cinéma par amour de l'image, j'ai fait de l'image par amour du cinéma. Je trouve cette phrase très très belle, et vraiment c'est un bel hommage très incarné de Luc Béraud à ce grand, grand chef opérateur du cinéma français.
Et c'était vachement bien son bouquin sur La maman et la putain.
Exactement, le bouquin précédent était tout aussi formidable. Ouais.
C'est
absolument.
Vrai. Oui, vous avez l'avez lu.
Je l'ai lu, c'est vrai.
C'est passionnant.
C'est très incarné. Exactement. Ces bouquins sont toujours très incarnés, c'est très agréable à lire et à découvrir.
Le cinéma policier français.
Oui, par Jean Olé Laprune, sous-titre « Sans film, sans réalisateur », c'est chez Hugo Images. Alors ça commence en 1901 avec « Histoire d'un crime » de Ferdinand Zecca. Le cinéma n'a que quelques années. Il invente tout simplement les flashbacks et le flash-forward, faut le savoir, en 1901, ça se faisait pas. Lui, il invente tout ça dans une histoire criminelle, et puis ça se termine très provisoirement, en 2019, avec Les Misérables, évidemment, de Lajdi, et la sympathique Bac de Montfermeil. Voilà, alors, pour chacun des 100 films, il y a une double page, très éclairante, qui va à l'essentiel, pour parler aussi bien de Clouseau que de Piala, ou de Patricia Mazui. Résultat, c'est évidemment un livre qui donne bigrement envie de voir ou de revoir ces 100 films. Illico presto, c'est bien, c'est le temps à la fois des cadeaux et des fêtes, on aura un peu le temps pour le faire. Voilà.
Un troisième livre que je ne vais pas offrir à l'invité parce que c'est le sien, c'est les grands classiques, La classe américaine, chez Alary Édition. Enfin, le scénario de votre premier film, Le grand détournement, La classe américaine, pastiche du cinéma américain uniquement construit avec des extraits de films sur lesquels sont plaquées des répliques absurdes et vraiment drôles. L'histoire, l'enquête de trois journalistes sur les dernières paroles de Georges Abitbol, monde de merde, point d'exclamation. Le tout enrichi dans ce livre de commentaires d'un appareil critique et d'illustrations qui respectent l'esprit décalé du film. Ce sont les vôtres illustrations ?
Oui, ce sont les...
Vous dessinez très bien.
Oui, je dessine très bien. Non, mais c'est surtout un film... Enfin, c'est un livre qui est lui-même un détournement. Il y a plein de conneries autour du texte. C'est bientôt Noël. Vraiment, pour 10 euros, je crois que vous pouvez vraiment faire plaisir à quelques proches.
Et 10 euros.
Et c'est dans une collection où il y a également Marivaux et Molière.
Alary, mais il y a Riyad Satouf.
Ah, quand même.
Ouais, donc une fois que vous avez acheté L'Arabe du Futur, vous pouvez prendre ça. Voilà.
Autre des DVD, alors.
DVD Blu-ray, oui. Ouais. Alors on va commencer par le film de Pierre Granier de Fer en 1971, La Veuve Coudert. Donc avec, s'il vous plaît, Delon, Signoret, plus Ottavia Piccolo, plus une adaptation de Simenon, donc et des dialogues de Pascal Jardin. Le tout servi par une musique de Philippe Sard. Donc c'est du très classieux pour une belle belle histoire d'amour intense entre un homme, Delon, donc, et ses deux femmes, l'une plutôt âgée, l'autre plutôt jeune, et avec le destin qui s'en suivra et qui se déroulera de façon évidemment implacable. C'est une nouvelle édition d'un éditeur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Coin de Mire, qui fait des DVD Blu-ray formidables parce qu'il nous replonge dans l'époque. Il y a des actualités de l'époque, il y a des pubs, il y a tout ça. On a l'impression de suivre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est formidable de nostalgie et de sentimentalisme. Et c'est très bien de vivre aussi le cinéma ancien, entre guillemets, comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Il y a un beau bonus avec Pierre Granier de Fer. Donc franchement... Et il y a en même temps, il y a Le Chat qui ressort, c'est un peu la même chose, en tous les cas avec évidemment Signoret Gabin à la place de Delon, mais voilà, donc on redit Coin de Mire à découvrir, à redécouvrir cette très très belle collection. Et puis, parce que ici on aime l'éclectisme, on va parler de Thérèse d'Alain Cavalier, voilà, et oui bien sûr, Alain Cavalier. Restauré en 4K pour Tamaza, film de 1986, c'est juste le prix du jury à Cannes, et c'est juste 6 Césars à cette époque-là, dont celui du meilleur film. Et il y a la grâce d'Alain Cavalier qui est touché par la grâce de Catherine Mouchet, absolument, et tout ça fait un film en état de lévitation intense, qu'on soit catholique, croyant, ça n'a aucune importance. Il nous parle d'autre chose, enfin il nous parle de ça et d'autre chose, donc c'est franchement, si vous ne connaissez pas, il faut le découvrir, et puis ça se revoit avec un bonheur. Et il y a un très beau petit livret qui donne l'intégralité des scènes et des dialogues, je répète, c'est chez Tamaza.
un cadeau pour notre
voire deux, en fait, voire ouais. deux cadeaux pour vous. Un, premièrement, un livre, en fait, ça sera une thématique Chabrol. Donc le livre, c'est celui de Laurent Bourdon, qui est publié chez l'excellent éditeur Leitmotiv. Ça s'appelle Tout Chabrol, tout simplement. Ça va du beau Serge, tourné à 27 ans, jusqu'au dernier film, Bel Ami, tourné à 78 ans. Toute la carrière de Chabrol, analysée, disséquée, rassemblée, évidemment. Alors, on nous rappelle, par exemple, que ben, à propos des magiciens, Michel Grisolia disait « Il y a longtemps que Chabrol ne s'intéresse plus à ce qu'il tourne. Faites comme lui. » Fin de citation. Et en revanche, pour la cérémonie, eh bien, les cahiers du cinéma disent « Le plus grand film du cinéma français depuis longtemps. » Voilà, Chabrol aura navigué dans ces extrêmes-là. Lui-même le disait, il reconnaissait absolument qu'il faisait de temps en temps des nanars. Et puis ça tombe bien, parce que en quelque sorte, on a les illustrations en DVD Blu-ray grâce à Carlotta et MK2, avec ce Claude Chabrol suspense au féminin, où il y a évidemment la cérémonie, mais également d'autres films comme L'Enfer, La Fleur du Mal, Merci pour le chocolat, 5 DVD Blu-ray en tout, un beau coffret, 7 heures de supplément, et il y a aussi Rien ne va plus, avec Céro et Huppert, que je trouve moi, une petite pépite ironique absolument charmante à redécouvrir dans ce coffret, donc je répète, Carlotta MK2.
Je profite que vous respiriez pour vous remercier, c'est super, je suis hyper content, j'aime énormément Chabrol, le personnage, je trouve qu'il a un charme.
Vous l'avez rencontré ?
Non, j'ai travaillé un peu avec son fils Thomas, qui est un peu, comment dire, je ne sais pas, il y a un truc bonhomme chez cet homme sympathique qui se prend pas trop au sérieux et en même temps il faisait sérieusement ce qu'il faisait et ouais, j'ai beaucoup d'admiration et de sympathie pour Chabrol.
Tant mieux.
Alors, ça lui fera plaisir, je pense.
Merci d'être venu, merci beaucoup. Parler donc d'évoquer les 5 ans de la Cinétech, ce site VOD,
cette belle plateforme qu'il faut fréquenter.
Oui, et quand vous mettez le doigt dedans, c'est difficile d'en sortir. Exactement. Vraiment, la Cinétech, c'est un peu comment dire,
très addictif, la Cinétech.
Ouais. Puis vous allez découvrir plein de trucs. C'est pas des algorithmes, mais on vous donne des possibilités. Si vous avez aimé ça, vous pouvez aimer ça. Les acteurs ont fait ci, le réalisateur a fait ça.
Ce sont des algorithmes humains.
Ouais.
Merci beaucoup et merci. On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Michel Hazanavicius, j'y étais.